Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si un jour vous le verrez, ce documentaire de Ruth Zilberman. Il y a cette scène folle, une scène de mémoire évidemment, puisqu'il s'est agi pour ce film de retrouver les habitants d'un immeuble du nord-est parisien. Les habitants qui, au début des années 40, étaient encore enfants ou adolescents, autant dire pour beaucoup, des survivants. Il y en a un qui s'appelle Henry, il est américain aujourd'hui. Depuis longtemps, il vit aux États-Unis. Et quand il fait le voyage et qu'il se retrouve devant la porte de l'immeuble, il demande... si elle était comme ça à l'époque, si ses parents ont peut-être touché cette poignée. Et la même question revient quelques secondes plus tard quand il marche sur les pavés de la cour de l'immeuble et qu'il demande s'ils ont été changés, les pavés, le toucher, le tactile, le sensible. Dans la cage d'escalier, la réalisatrice lui dit que telle pièce, c'était les toilettes communes. Et de fil en aiguille, elle vient à lui dire qu'on allait se laver dans les bains publics à l'époque. Et là, il se passe quelque chose de sidérant. Dans ses yeux, dans sa voix, dans son corps tout entier, il se souvient. Ou plutôt, il comprend soudain le sens de ce vague souvenir d'avoir été lavé par ses parents dans les bains-douches parisiens. Ce souvenir qu'il avait occulté et qui reprend forme, qui se matérialise sous nos yeux, qui s'anime des années après par la mémoire d'un lieu. C'est un film de Ruth Zilberman à revoir sur Arte, comme on... recherche la mémoire à rechercher peut-être les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est de ceux qui provoquent nos sensations tout en interrogeant notre mémoire collective, familiale, individuelle. En une quarantaine d'années, il est devenu l'un des artistes contemporains français les plus acclamés. Son œuvre protéiforme s'expose dans le monde entier, de Paris à Shanghai, en passant par Jérusalem ou New York. Bonjour Christian Boltanski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui vous redonne la mémoire à vous ?
Moi, je me suis beaucoup intéressé à ce que j'ai appelé la petite mémoire. C'est-à-dire, la grande mémoire est dans les livres. C'est la mémoire historique. Mais la petite mémoire, c'est de savoir où on achète la meilleure quiche Lorraine à Paris, une histoire drôle. Enfin, comme disent les Africains, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et effectivement, nous avons tout un savoir, une connaissance qui disparaît avec nous. Et donc, au début de ma vie, j'ai essayé de sauver la petite mémoire de tous, qui naturellement est totalement impossible, c'est un projet fou, mais d'essayer de sauver chaque instant et chaque petite chose insignifiante qui nous fabrique, qui nous forme.
Et pas n'importe quelle mémoire de l'occupation, de la déportation, de l'extermination, quelle mémoire est-ce que vous gardez, vous ?
Moi, je suis né en 44 à Paris, donc je n'ai pas connu tout ça. Mais vous savez, il y a une chose qui est remarquable quand on est un artiste, c'est que on parle en même temps de soi, et en parlant de soi, on parle des autres. Donc c'est toujours du plus personnel au plus collectif. Et le rêve d'un artiste, c'est quand chacun termine son œuvre avec son propre vécu et se retrouve dans son œuvre. C'est-à-dire que parfois, je pense qu'un artiste comme moi n'a plus de visage. À la place du visage, il a un miroir, et chacun qui le regarde se dit « mais c'est moi, comme il sait ça sur moi ?»
Moi, je pense tout de suite, Christian Boltanski, à l'une de vos œuvres les plus fortes à ce jour, l'installation « Personne », réalisée il y a 8 ans sous la nef du Grand Palais. J'aimerais que vous nous la décriviez, pour qu'on la revoie.
Il s'agissait d'une énorme montagne de vêtements, je sais plus s'il y avait une vingtaine de tonnes de vêtements, et d'une grue de chantier avec une grosse pince qui prenait les vêtements au hasard et qui les rejetait. Et pour moi, naturellement, c'est la beauté aussi d'une œuvre d'art, c'est qu'elle est imprécise et que chacun voit ce qu'il a envie de voir. Moi, pour moi, c'était un peu la main de Dieu, c'est-à-dire pourquoi celui-là meurt, celui-là ne meurt pas. Pourquoi cette pince aveugle va prendre ce vêtement et le rejeter? Et donc, c'était cette sorte de... autour du destin. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup au hasard et au destin. Et donc là, c'est autour du destin.
Dans ce qu'il peut avoir de pire.
Oui, absolument.
Lutter contre l'oubli, est-ce que c'est seulement possible, Christian Boltanski?
Je pense que j'ai raté tout ce que j'ai fait, mais naturellement c'était annoncé depuis le départ, parce qu'on ne peut pas lutter contre la mort et on ne peut pas lutter contre l'oubli. Et donc c'est une sorte de combat impossible que j'ai essayé comme protestation, que j'ai essayé de tenir.
À quoi ça sert pour vous d'évoquer le passé encore et encore? Pourquoi c'est nécessaire malgré tout?
Je pense Tadeusz Kantor disait que on a un enfant mort en nous qu'on transporte, et je pense qu'on transporte tout notre passé, Et c'est comme une sorte de poids ou de poids heureux parfois. Et donc petit à petit, peut-être que cet enfant mort qui est en nous disparaît, mais il est toujours présent. En moi, j'ai toujours le petit Christian. Et comme cet homme se rappelait de l'endroit où il faisait son bain, moi, je me souviens de plein de choses qui tend à disparaître comme ça, mais qui est toujours là.
Vous trouvez qu'on est suffisamment attentif aux enseignements du passé, aujourd'hui ?
Vous savez, je crois peu au progrès et peu au changement. Donc je crois que les choses se reproduisent. Moi, je dis toujours, par exemple, pour moi, que je ne suis pas un artiste moderne. C'est-à-dire, j'emploie un langage qui est un langage aujourd'hui, qui est la vidéo, le film, la photo, le son. Mais en même temps, les questions que je pose sont des questions tellement anciennes qui auraient pu être posées au XVIe siècle. Et en gros, c'est toujours les mêmes questions que posent les artistes.
D'ailleurs, c'est intéressant, Christian Boltanski, parce que depuis l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, on a assisté à l'apparition d'une nouvelle forme de mémoire. Cette mémoire virtuelle, où chacun peut désormais consigner ses souvenirs, où on se dit parfois que ça ne s'effacera pas, que ça ne s'effacera plus. Ça doit forcément interroger l'artiste que vous êtes.
Alors, moi, je suis passionné naturellement par Internet et par Facebook. Depuis des années, j'essaye de travailler sur Facebook parce que j'essaye de détecter les morts. Il y a énormément de morts sur Facebook, ils ne savent pas comment les enlever. Et alors, quelquefois, je reçois « Madame Attel, vous êtes votre amie, je sais qu'elle est morte depuis 2 ans. » Mais ça continue à vivre à l'intérieur de Facebook. Et donc, cette chose qui est en principe une chose de bonheur, en fait, est une sorte d'immense cimetière qui me touche. Et en plus, ce qui est beau de Facebook, c'est, malgré toutes les bêtises, regardez mon petit chat, etc., c'est le fait que c'est toujours 1+1+1. C'est Madame Machin qui aime beaucoup les marguerites et qui mange des gâteaux.
C'est
la petite mémoire, voilà. C'est chacun est différent, ou chacun se veut différent, et ça me semble très important.
Quel avenir est-ce que vous lui voyez à la mémoire, Christian Boltanski ?
Comme je vous le disais, je pense pas que les... Je pense naturellement que l'Internet a changé beaucoup de choses, parce que je me suis beaucoup intéressé aux archives, et maintenant Internet est une sorte de masse d'archives absolument gigantesque. Et en même temps, trop d'archives tue l'archive. C'est-à-dire que sur moi, si on tape sur Wikipédia, il doit y avoir, je sais pas, 3000 notes, dont 2000 sont fausses. Et de toute façon, on ne peut pas y lire parce qu'il y en a trop. Donc, vraiment, trop de renseignements tuent le renseignement. Et donc, on est absolument assommé sur cette masse de renseignements. Et je ne sais pas si on sait plus qu'avant. Mais il y a toutes ces archives immenses.
J'aimerais qu'on écoute ensemble cette archive, justement, qu'on va faire entendre aux auditeurs. Vous avez choisi de partager avec nous ce matin. C'est celle de Roland Barthes, en 1963, qui nous parlait de Marcel Proust.
C'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité, pas, en conjoignant brusquement un fragment du passé et une sensation du présent, on sort en quelque sorte du temps. Le temps est vaincu et cela produit dans le narrateur une félicité tellement importante qu'il n'hésite pas à la considérer au fond comme une sorte de victoire sur la mort.
Roland Barthes, en 1963, dans quelle mesure est-ce qu'il vous arrive, Christian Boltanski, de faire l'expérience d'une victoire sur la mort, pour ne pas dire de l'immortalité ?
Je ne crois pas à l'immortalité. je m'intéresse aux religions, mais je ne suis pas religieux. Et disons, la seule chose, c'est que aujourd'hui, au moment où je suis de ma vie, j'essaye de créer des mythes, parce que je pense que les légendes et les mythes sont plus forts que les œuvres dans la durée du temps. Et donc je crée, ma dernière œuvre, par exemple, que j'ai faite, était en Patagonie, où j'ai installé dans un endroit totalement désert, des grandes trompes pour poser des questions aux baleines, parce que chez les Indiens d'Amérique latine, les baleines savent le début des temps. Et donc, ça fait, on travaille avec des acousticiens pour faire le langage des baleines et leur poser des questions. Naturellement, sans aucune réponse, pas de réponse. Mais j'espère qu'un jour, on aura oublié mon nom, que naturellement, ces trompes vont être détruites par la prochaine tempête, mais peut-être qu'on dira, il y a eu un fou qui est venu et qui a essayé de parler aux baleines. Et que peut-être que cette chose restera comme une légende. Et je crois à une sorte de force des mythes et des légendes encore plus puissante que les œuvres, peut-être.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de laisser derrière vous? Aujourd'hui,
des questions. J'ai horreur des réponses et je me fie énormément des réponses. Et par contre, je pense qu'une question peut amener une autre question et poser des questions et donner des émotions est est ce que j'essaye de faire.
Je pense au regard de ce sonore qu'on a entendu de Roland Barthes à une autre de vos œuvres que vous avez appelée la Bibliothèque des Chœurs. C'est un projet que vous avez initié il y a 13 ans. Il s'agit de réunir les archives sonores de battements de cœur de centaines de milliers d'inconnus. Ces archives sont conservées pour l'éternité sur une petite île au Japon. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans un battement de cœur?
Naturellement, ce qui m'a plu, c'est que d'une part, le battement de cœur est le symbole de la vie dans pratiquement toutes les cultures. Et puis, chaque battement de cœur est un tout petit peu différent. Il est différent selon le temps de la vie, mais chacun est un tout petit peu différent. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens dans mon travail. Beaucoup de monde, j'ai, je sais pas, 6000 bébés polonais, 10000 Suisses morts. Enfin, j'ai beaucoup de monde chez moi. Et là, nous avons à peu près 150 000 battements de cœur venant de plein de pays du monde. Et donc, on va dans cette île qui est un endroit merveilleux. Et on arrive dans cette petite maison, une maison de pêcheurs, et là, on dit, je voudrais écouter le cœur de Madame Machin, ma grand-mère, et il y a des gens qui vous aident à écouter le cœur de votre grand-mère. Alors naturellement, ce lieu devient plutôt un... Il y a beaucoup de cœurs de mort déjà, et en même temps, si vous écoutez le cœur de votre grand-mère, vous allez plutôt ressentir son absence que sa présence. C'est un petit peu quand on regarde la photo de quelqu'un, on ressent plus son absence que sa présence. Mais disons... Voilà, ils sont là, et là encore, ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage pour les Japonais, pas parce que je suis un artiste, mais c'est un lieu où on vient écouter les gens qu'on a aimés et les gens qu'on aime.
Votre cœur à vous, il bat comment ?
Alors, j'avais fait une pièce avec mon cœur il y a déjà une douzaine d'années, le lendemain j'étais chez le médecin. Mais enfin, je suis encore là, donc ce n'est pas trop grave.
Qu'est-ce qui le fait battre plus vite, plus fort, plus intensément ? Qu'est-ce qui le rend le plus vivant, votre cœur ?
Vous savez, quand on est artiste, enfin moi en tout cas, j'ai eu très très peu d'idées dans ma vie, j'ai très très peu compris des choses, et parfois on a l'impression qu'on a compris un tout petit peu ce qu'on doit faire, et c'est là où le cœur bat très très vite.
Celle qui ne bat pas très vite dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Christian, c'est la culture et son actualité sous assistance respiratoire. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 11 juin? Premier, c'est plaisir.
Mon deuxième, du plaisir. Oh, les attaques, ça fait...
Et le tout va clairement nous faire des souvenirs. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, présente ce matin son catalogue des désirs sur la liste de 500 chefs-d'œuvre qui vont quitter leur musée d'origine pour aller à la rencontre des Français. Accueillis dès septembre dans des petites et moyennes villes comme Savigny-sur-Véron ou Cambo-les-Bains, les œuvres y seront exposées de 6 mois à 1 an au catalogue L'Ève de Rodin, Le Groom de Soutine ou La Lorenza Correa de Goya. Blues du lundi, Danny Kirwan, guitariste du groupe culte Fleetwood Mac, est mort vendredi. Il avait 68 ans. C'est en 1968 que le musicien britannique avait rejoint la formation de Mick Fleetwood, qui donnait alors dans le blues avant d'opérer un virage pop au tournant des années 70. Exclu du groupe en 72, Danny Kirwan restera l'architecte des riffs diaboliques des albums Then Play On, Blues Jam at Chess ou Kiln House. Peace. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. C'est parti pour Annecy, le plus grand festival du film d'animation au monde inaugure aujourd'hui sa 42e édition dans la petite Venise des Alpes. Au programme, Michel Oslo, créateur de Kirikou, dont on fête les 20 ans et qui présentera en avant-première son nouveau long métrage, Dilili à Paris, mais aussi la mise à l'honneur de l'animation brésilienne et les 50 ans des Shadok avec une grande expo au château d'Annecy. Jolie.
Culotter, c'est rêver d'être une actrice romantique et s'entendre dire à tous les castings qu'on est moche et qu'on pourra jamais être à l'écran parce qu'on est trop moche.
Un prix culotté. Vendredi, le festival Lyon BD a remis son prix d'honneur à la formidable BDiste Pénélope Bagieux, auteure de la série Culotté, portrait de femme inspirante paru chez Gallimard. On a besoin de moins de schtroumpfettes et plus de culotté, a déclaré l'adjoint au maire de la ville en remettant sa récompense à Pénélope Bagieux pour son œuvre, mais aussi son engagement. You go girl. Et l'artiste Christian Boltanski, invité de Boomerang ce matin pour nous parler d'art, de mémoire, de temps, de création. Je me souviens, Christian, d'avoir vu certaines de vos œuvres dans la collection de Marine Karmitz à la Maison Rouge. Et parmi celles-ci, je me souviens d'une installation vidéo qui s'appelait Animitas Blanc. Qu'est-ce qu'on pouvait voir sur ces images ?
Oh, c'est un vidéo qui dure 12 heures, qui dure de la nuit à la nuit, et qui représente des petites clochettes qui sont battues par le vent dans un paysage au nord du Québec, donc qui est vraiment blanc et vide. Et c'est des petites âmes errantes. Je crois que nous avons des esprits autour de nous. Et donc ces petites sonnettes qui bougent comme ça, très doucement. On sent la journée s'écouler. Il y a l'aube au crépuscule. Et pour moi, c'est comme une sorte d'endroit, pas vraiment de repos, mais un endroit où on peut s'asseoir. Et puis... on peut méditer un tout petit peu sur soi. Vous savez, quand je fais une exposition plus grande, enfin ce qu'on appelle une exposition personnelle ou rétrospective, pour moi j'essaie que ce soit un tout petit peu comme dans les pays du Sud. Vous savez, parfois en Italie ou en Espagne, la porte de l'église est ouverte, on entre, puis il y a un monsieur qui bouge les bras, puis il y a une drôle d'odeur, puis on entend une musique, on s'assoit, on fait rien, on pense un tout petit peu à soi-même et à qu'est-ce qu'à notre existence, et puis au bout d'un quart d'heure, on ressort dans la ville, on recherche un restaurant, et on a eu besoin de ce petit moment de calme. Et donc de plus en plus, j'aimerais créer à l'intérieur des villes des lieux où on peut apprécier, où on peut simplement se penser un peu mieux.
Sauf que cette œuvre, elle a voyagé.
Alors, cette œuvre a forcément voyagé beaucoup, et j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une, notamment la première, dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, et qui est l'endroit le plus sec au monde et qui a 4000 mètres d'altitude et où on voit les étoiles le mieux au monde. Et donc il y a cette référence au ciel. Cette référence au ciel et ce désert d'Atacama est un endroit extrêmement mystique.
Alors
extrêmement...
qu'est-ce qui se joue dans la dimension nomade de votre travail? Des sens différents à chaque fois?
En ce moment, comme c'est lié à mon âge, je fais beaucoup de rétrospectives. Et pour moi, faire une rétrospective, c'est un peu comme quand on rentre le soir chez soi. Et puis on ne sait pas quoi manger, alors on ouvre le frigidaire, puis il y a deux pommes de terre, un bout de fromage et du jambon, et puis on fait revenir. Et alors moi, quand j'ai une exposition, je tâche de faire revenir. Donc j'ouvre mon frigidaire mental, je vois ce qu'il y a dedans, et à chaque fois, je crée une nouvelle œuvre avec tous les vieilles choses un peu abîmées qui sont dans le frigidaire. Et donc toute exposition que je fais, comme une pièce de théâtre, n'est visible que pendant le temps de l'exposition. Et après ça, ce sera peut-être les mêmes objets, mais une autre exposition.
Mais moi, ça m'intéresse quand même, cette question du mouvement, du déplacement, du voyage chez vous, parce que voyager, se déplacer, quitter l'espace du chez-soi, ça n'est pas toujours aller de soi, pour vous.
Aujourd'hui, je suis un artiste voyageur. Et je suis très très souvent en voyage. Et pour moi, si vous voulez, je sens de plus en plus que la famille du monde. Et je suis très heureux d'avoir des amis dans énormément de pays du monde. Si on me demande quel est mon pays, je dirais l'art. Je crois vraiment énormément, pas peut-être dans la culture, mais dans l'art.
Il faut rappeler quand même, Christian Boltanski, que enfant, adolescent, vous ne sortiez pas de chez vous. Vous n'avez pu vous aventurer seul dans la rue qu'après vos 18 ans. Vous le racontez, ça?
J'étais un enfant très très perturbé et je pense que l'art m'a sauvé. Et effectivement, j'ai pas pu aller à l'école, je suis sorti pour la première fois seul à 18 ans, mais je pense que l'art m'a sauvé. Si vous voulez, l'art est... être artiste, c'est comme une sorte de très longue psychanalyse un peu naïve, et le fait que on parle de son trauma, et en parlant de son trauma, on le met à distance et donc ça nous soigne. Je pense que chaque artiste, au début de sa vie, a un trauma, presque toujours. Et le fait qu'il va en parler, qu'il va le raconter, fait qu'il vit mieux avec ce trauma.
Le vôtre, vous avez réussi à le définir?
Moi, je pense que c'est un trauma historique. En fait, je suis né en 44. La plupart des amis de mes parents étaient des rescapés de la Shoah. Donc, je pense que c'est ça. J'ai entendu des histoires assez effrayantes, très jeunes, ou très effrayantes, très jeunes. Et donc, je pense que c'était mon trauma, même si j'en ai jamais parlé directement. Mais quand je parle de la disparition, de l'identité, j'ai fait énormément de livres, par exemple, simplement avec des listes de noms. D'ouvriers dans une usine en Angleterre au 19e siècle, de Suisses, du Valais mort en 98. C'est-à-dire que simplement de dire des noms est très important.
On va reparler d'hier, de demain, de noms, d'histoire, de mémoire, de souvenirs avec Daniel Darc qui chantait « Je me souviens, je me rappelle », c'était en 2004. Vous êtes sur France Inter avec Christian Boltanski. Vous écoutez Boomerang, lundi.
Je me souviens, je me rappelle, ces temps, ces vieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle, je me foutais bien du malheur. dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Très doucement jouait le vent, alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle une croix trop lourde pour moi, un voix qui pèse et m'écartèle, pourtant comme jamais cette croix. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle ces temps si vieux et chers à mon cœur. Le jour baissé, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle, je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances, qu'ils montent et plongent sans bruit, étoiles brillant dans la nuit, étoiles brillant encore dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Crâne lisse, visage, œil et néron, on est quelque part entre le prof de philo et Humpty Dumpty, l'œuf d'Alice de l'autre côté du miroir. Calme, précision, intensité dans son regard, sourire en coin, qui trahit un esprit blagueur, facétieux et somme toute bon enfant, même bon vivant, avec son polo noir et sa veste bleu marine. Ce matin, Christian Boltanski, invité de Boomerang. J'aimerais qu'on revienne, Christian, un peu aux origines de votre travail, qui n'a pas débuté par des installations. Au début, il y a eu le dessin. Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner?
Je suis un très très mauvais dessinateur, même c'est une honte à ce point-là, et je regrette. Non, il s'est trouvé que j'allais pas à l'école, que je ne supportais pas d'aller à l'école, qu'on me retrouvait dans la rue quand on était dans une école en train d'hurler au bout d'un quart d'heure. Et donc mes parents, qui étaient des gens merveilleux, ont dit « tu veux pas aller à l'école, reste à la maison ». Ouais, c'était la seule solution d'ailleurs. Et donc ils m'ont mis à la maison où je regardais par la fenêtre à compter les voitures. Et puis un jour, j'ai fait un petit dessin et mon frère, qui a 4 ans de plus que moi, m'a dit « c'est bien ce que tu as fait ». Et donc je me suis dit « ça doit être mon métier ». C'est la première fois où on me dit que j'ai fait une chose bien. Donc j'étais tellement surpris que je suis devenu artiste.
Et comment ça a été perçu par votre famille ?
C'était une famille d'artistes étranges. Et donc ils ont tous accepté. J'ai dit « je veux faire des grands tableaux sur bois ». Et alors, j'avais entendu parler qu'il y avait de la peinture à l'œuf. Alors, je prenais le jaune 2, j'essayais de peindre avec du jaune 2, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Puis j'ai compris après ça qu'il fallait avoir l'huile. Donc, je prenais l'huile de... Je croyais que c'était l'huile de tournesol de la cuisine. Bon, tout ça n'a pas beaucoup fonctionné. Mais j'ai fait des centaines de tableaux, heureusement détruits. Ce qui n'était pas très, très bon.
Ce qui est intéressant, c'est que dessiner, c'était plus facile que d'écrire,
De toute façon, comme vous le voyez, je sais parler, mais je ne parlais absolument pas. Alors, la seule chose que je trouve positive à dire, c'est que j'étais vraiment une sorte de calamité pour des parents, totalement abruti, pouvant pas aller à l'école, je n'ai jamais passé un examen de ma vie. Et puis finalement, ça n'a pas si mal donné que ça. Donc, si on a un enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui est imbécile et tout, eh ben, il faut l'encourager simplement.
Un éloge du cancre, par voilà. Christian Botanski.
Voilà. Et donc, je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire à un enfant, c'est lui dire « tu es formidable ». Et mes parents, alors qu'ils avaient vraiment un minus, m'ont dit « tu es formidable ». Et puis finalement, petit à petit, j'ai pu faire des choses.
Cela dit, ça laisse des traces, parce que j'ai l'impression que les mots, vous vous en méfiez encore aujourd'hui.
La beauté des arts plastiques, j'ai horreur du mot art plastique d'ailleurs, de la peinture, moi je dis toujours que je suis un peintre. La beauté de la peinture, c'est qu'elle est imprécise. Et seule la poésie est en même temps très précise et imprécise, mais malheureusement le langage est trop précis.
C'est-à-dire qu'il fige.
Il fige. Quand vous voyez un tableau, vous ne savez pas si c'est un chapeau ou si c'est un chameau. Et donc chacun de nous peut voir ce qu'il a envie de voir. Et pour moi, quand je monte une exposition, c'est très important. Je ne mets jamais d'étiquette. Et chacun peut voir ce qu'il a envie de voir. Je ne veux pas guider l'œil du spectateur. Et chacun voit avec son propre vécu.
C'est intéressant que vous disiez « je suis un peintre ». Il est où le dessin aujourd'hui dans votre travail, Christian Boltanski ?
Il n'existe pas. Malheureusement, j'essaie de faire des petits croquis pour moi pour essayer de m'expliquer des choses, mais il n'existe pas. Je dis vraiment, c'est une horreur ce que je fais. Et de toute façon, moi, je travaille très très peu. Je reste un peu plus de temps couché à regarder la télévision les choses les plus mauvaises.
Et à écouter la radio, Christian.
Et écouter la radio, parce que, là, c'est moins mauvais. je pense que la seule chose à faire quand on est un artiste, quand j'étais professeur très longtemps, et alors je disais toujours à mes étudiants, la seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre et espérer. Et donc, ils attendaient, ils espéraient. Bon, la plupart me quittaient au bout de 8 jours d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'attends et j'espère. Et essayer de se vider complètement, de penser à ce qu'on doit faire, et d'espérer qu'un jour, on va peut-être comprendre un tout petit truc. Et une fois qu'on a compris ça, l'œuvre est déjà faite. Elle n'est pas commencée, mais elle est déjà faite.
Et en ce moment, vous attendez quoi ? Vous espérez quoi ?
En ce moment, je cherche comment sortir de mon exposition que je fais au Centre Pompidou dans un an et demi et comment trouver un rideau pour sortir, traverser une image.
Traverser une image.
Quelle image de fin, voilà.
La fin ?
On pense toujours à ça. Et quelle image de fin. Mais naturellement, il n'y a pas de... Là aussi, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de solution.
C'est-à-dire que le problème, c'est que vous me disiez tout à l'heure que vous ne faites que vous poser des questions sans réponse.
Oui.
Je suppose.
Absolument. Les réponses sont une chose extrêmement dangereuse. Et de toute façon, ça change, on ne sait pas. Vous savez, comment dire, quand on est un artiste, c'est un peu comme quelqu'un qui a fait un voyage. Et moi, mon voyage, je sais, c'est cette sorte de peur de l'effacement. Et puis on peut raconter ce voyage de manière extrêmement différente. On peut dire les paysages, la nourriture, les gens qu'on a rencontrés. Et donc, le long de sa vie, on va raconter toujours le même voyage, mais avec des manières différentes, avec des visions différentes. Et effectivement, vu mon âge, c'est plutôt des visions moins... Je ne sais pas si c'était très optimiste au début, mais enfin, c'est un peu moins optimiste qu'au début.
Merci infiniment, Christian Boltanski, d'être venu faire un tour dans cette émission. On attend avec impatience cette nouvelle grande exposition en France, mais aussi de découvrir vos prochaines œuvres. Je rappelle, en attendant pour tous les voyageurs et auditeurs de Boomerang qui habitent à l'étranger, qu'une rétrospective vous est consacrée à Shanghai, une autre à Jérusalem, que plusieurs de vos œuvres sont actuellement visibles à la Fondation Vuitton dans le cadre de l'exposition Au diapason du monde. On ira, mais tout de suite, les médias. C'est Sonia De Villers, juste après ça. We just want to party.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up.
Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Know that.
Yeah,
know that. Yeah. Ooh, get it,
yeah.
Ooh,
yeah.
Get it, yeah. Ooh, get it, yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Waka.
This is America, Childish Gambino, sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers.
Ça déménage, hein?
Ah bah, c'est le tube de l'été.
Oui, c'est le tube de l'été.
Je vous écoute.
Salut, Augustin.